voix qui avait emporté Anna et Simon. « Il faudrait bien donner un nom à ce lieu. On en verrait pour la première fois les images. Resterait à jamais imprimé dans les mémoires l'ombre d'un porche qui se découpe sur le blanc du ciel, les rails noirs qui filent vers l'abîme. » La famille a regagné Paris. Le sort, qui s'est acharné sur Anna et les siens, leur a laissé la vie sauve. Tania est revenue vivre avec Martha. Maxime n'a pu supporter l'idée de dormir avenue Gambetta et s'est installé un lit de fortune au premier étage du magasin. Les deux amants s'imposent cette distance. Ils n'osent plus se toucher. Il leur est devenu impossible d'écarter l'image des absents, de s'aimer dans ces lieux hantés. Il leur faut attendre. Lorsque Tania apprend la mort de Robert, elle le pleure à peine. Il est déjà si loin. Elle pense même qu'elle n'aura pas à affronter son regard. Mais que se passera-t-il si Anna et Simon reviennent de leur exil? Elle l'affirme à Maxime dès leur retour à Paris. Elle saura s'effacer. Il lui faut le dire, et elle veut y croire. Il l'écoute, silencieux, la serre dans ses bras. Il s'efforce de chasser toute pensée de leur esprit. Après la libération, les familles espèrent encore. À Paris, on guette l'arrivée des déportés. Jour après jour, on se rend aux nouvelles. On consulte les listes affichées dans le hall de l'hôtel Lutetia. On passe de groupe en groupe, en brandissant des photos. On pose des questions. On assiste à l'arrivée des autobus déchargeant sur le trottoir leur cargaison de fantômes. À plusieurs reprises, Maxime prend le métro jusqu'à Sèvres-Babylone. Il en revient, bouleversé. Une foule hagarde envahit les salons de réception. Cohorte misérable tranchant sur le luxe des lieux. Des ombres foulent les tapis épais, errent entre les grands canapés et les miroirs, vacillent et s'accrochent aux bars où, peu de temps auparavant, des officiers allemands levaient leur coupe à la victoire. Chaque visage d'enfant, chaque œil creux, chaque pâleur fait tressaillir Maxime. Sous les vêtements en lambeaux des femmes, il croit chaque fois reconnaître la silhouette amaigrie d'Anna. Une douleur aiguë le traverse, celle de l'espoir qui se mêle à la crainte. Un mur s'est élevé, qui étouffe leur voix. Il peine à en retrouver les intonations. Il a oublié le timbre clair de son fils, les murmures de sa femme. En vain, il cherche à retrouver leur rire, leurs expressions favorites, leur parfum. Il a commencé à faire son deuil. Anna et Simon ne reviendront jamais. Il faudra du temps pour que Tania et Maxime envisagent une vie commune. Des mois passés à déménager des meubles, remplir des valises, soulever des objets encore habités, plier des affaires imprégnées d'odeurs familières, faire place nette. Maxime ne pourra se résoudre à donner les jouets de son fils et les déposera dans la chambre de service, au sixième étage de l'immeuble où Tania et lui vont vivre désormais. C'est là que je découvrirai Sim. J'y accompagnerai ma mère. Des années avant qu'un véritable chien, Écho, le petit bâtard noir et blanc recueilli sur les bords de la Marne, ne vienne partager notre existence. Je vais naître dans ce quartier, habiter cette rue calme. Une des pièces de l'appartement sera transformée en gymnase, où Tania et Maxime poursuivront leur entraînement. Ils se marieront, travailleront ensemble rue du Bourg-l'Abbé, se spécialiseront dans les articles de sport, la clientèle s'y pressera. De l'autre côté du couloir, Louise ouvrira de nouveau son cabinet d'infirmière. Chaque fin de semaine, ils se rendront au stade. Le dimanche soir, ils participeront au dîner rituel chez Esther et Georges, avec le reste de la famille. Les blessures seront moins vives. Seule une douleur sourde restera tapie au fond de chacun. On ne parlera plus de la guerre. On ne prononcera plus le nom des disparus. Peu de temps après ma naissance, Maxime provoquera de nouvelles tensions en faisant modifier l'orthographe de notre nom. Grimbert sera lavé de ce N et de ce G, ces deux lettres devenues porteuses de mort.
Partie 5.
Louise m'avait permis de reconstituer l'idylle de mes parents coupables. J'avais 15 ans, je savais ce que l'on m'avait caché, et à mon tour je me taisais, par amour. Les révélations de mon ami ne m'avaient pas seulement rendu plus fort, elles avaient aussi transformé mes nuits. Je ne luttais plus avec mon frère, maintenant que je connaissais son nom. Peu à peu, je me détachais de mes parents. J'acceptais de voir les fêlures apparues sur ses perfections. Je les voyais combattre les premières atteintes de l'âge en redoublant d'énergie sur les cours le dimanche. Mon père en souffrait davantage que ma mère, et je surprenais parfois l'anxiété de son regard face au miroir. Un soir, il était rentré effondré. Pour la première fois, une jeune femme lui avait cédé sa place dans le métro. Mon apparence ne m'était plus une souffrance. Je m'étoffais. Mes creux se comblaient. Grâce à Louise, ma poitrine s'était élargie, le vide sous mon plexus s'était atténué, comme si la vérité y avait été jusque-là inscrite en creux. Je savais désormais ce que recherchaient les yeux de mon père lorsqu'il fixait l'horizon. Je comprenais ce qui rendait ma mère muette. Pour autant, je ne succombais plus sous le poids de ce silence. Je le portais, et il étoffait mes épaules. Je poursuivais mes études avec succès, je lisais enfin l'estime dans les yeux de mon père. Depuis que je pouvais les nommer, les fantômes avaient desserré leur étreinte. J'allais devenir un homme. Quelques années plus tard, ma mère perdrait l'usage de la parole et de la marche, à la suite d'une hémorragie cérébrale. Je verrais fondre ses muscles. J'aurais à affronter la vision d'une femme amaigrie, méconnaissable, se balançant sur un fauteuil. Cette douleur, mon père la ressentirait plus violemment encore que moi. Habitué à lutter, il ferait face les premiers temps, aidant ma mère dans sa rééducation, mais le spectacle de sa championne appuyée à une béquille, sa jambe droite fauchant l'air à chacun de ses pas, lui deviendrait vite insupportable. Et blessé plus cruellement qu'un autre par cette vision, il déciderait d'y mettre fin. Echo partageait notre vie depuis quelques années, passant ses journées en compagnie de mon père, dormant le soir sur mon lit. Il avait remplacé Sim, dont la peluche râpée avait rejoint les souvenirs poussiéreux de la chambre de service. Je savais que je ne pourrais plus affronter l'éclair de ses petits yeux noirs, maintenant que je connaissais son histoire. Comment mon père avait-il pu supporter de me voir le serrer contre ma poitrine, l'installer à côté de moi à chacun de nos repas? Et ma mère, qu'avait-elle ressenti en entendant de nouveau le nom de celui que j'avais arraché à sa nuit, qu'elle avait sans doute si longtemps craint de voir réapparaître? Mon père s'attendrissait lorsqu'il serrait son chien noir et blanc contre sa poitrine. Il emmenait Echo en promenade au bois, jouait avec lui comme avec un enfant, le lâchait le dimanche sur les pelouses du stade, roulait avec lui dans l'herbe. Dès que mon emploi du temps le permettait, je me rendais au magasin, et sitôt arrivé, je traversais le couloir pour rendre visite à Louise. Nous n'avions jamais interrompu nos conversations. Elle savait toujours écouter, ses yeux dans les miens, sa bouche projetant ses volutes de fumée, ses mains chassant de vieilles douleurs. Lorsque j'étais remonté dans la chambre de service pour y rendre Sim son lit de couverture, j'étais tombé sur un album de photographies, à peine visible sous la poussière, au milieu d'une pile de magazines. J'y avais contemplé Maxime et Anna, en tenue de mariée. J'avais vu la jaquette noire et le chapeau haute forme de mon père. J'avais fait connaissance avec le visage inquiet de sa jeune femme, aussi pâle que son voile, tournant vers son époux ses yeux clairs qui allaient si vite se ternir. Les pages cartonnées s'étaient ouvertes sur des scènes de famille, des groupes d'inconnus posant devant des maisons ensoleillées, des plages, des parterres de fleurs. Une vie en noir et blanc. Des sourires, aujourd'hui éteints, des morts qui se tenaient par la taille. Enfin j'avais vu Simon, dont les photos remplissaient plusieurs pages. Son visage m'avait paru étrangement familier. Je m'étais reconnu dans ses traits, à défaut de me retrouver dans ce corps. J'avais glissé dans ma poche l'une des photos de l'album qui s'était décollée, au dos de laquelle une date était inscrite. On l'y voyait en short et en maillot, au garde-à-vous devant un champ de blé, plissant les yeux face au soleil de son dernier été. Un matin, peu avant mon 18e anniversaire, le téléphone a sonné. Après avoir répondu, mon père a raccroché, le regard absent, la main encore appuyée sur le récepteur.